Et encore une fois, comment faire pour que les entreprises ne soient pas pénalisées? Alors, je vous explique ce qui a été trouvé dans le cadre du protocole de Kyoto, c'est ce qu'on appelle les marchés du carbone. Les États distribuent aux entreprises les plus polluantes, ça représente à peu près sur l'Europe 50% des émissions totales. Ce qu'on appelle des droits d'émettre. Bon, chez les écologistes, etc., souvent ça s'appelle des droits à polluer, des quotas d'émissions. En termes soft, si vous voulez, des quotas d'émission ou des droits d'émettre qui sont des droits à polluer. Je prends un exemple. Je prends l'entreprise Total. Bon, c'est pas tout à fait le hasard. Bon, on lui dit, par exemple, en début d'année, on se rend compte que Total, dans son bilan carbone, émet 12, mettons, 12 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et l'État français va dire à Total, voilà, à la fin de l'année, il faut que vous passiez à 10. Il faut avoir diminué et passer à 10. Et donc l'État va donner à l'entreprise Total 10 droits à polluer. Donc aujourd'hui, Total pollue, envoie 12 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. En fin de période, elle doit en envoyer 10. C'est le contrat. Et donc on lui donne 10 droits à polluer, gratuitement. Ils ont été donnés gratuitement. Et ainsi, des droits à polluer, si vous voulez, des permis d'émission ont été distribués aux entreprises. Alors, il y a deux possibilités. Soit Total fait vraiment des investissements, de manière à diminuer ses émissions ici, en Europe, et en fin de période, Total se retrouve avec une émission de 10 tonnes, auquel cas Total est complètement en règle et va avoir autant de droits d'émission que de carbone effectivement émis. Supposons que Total n'ait rien fait. En fin de période, Total va devoir, a toujours 12 tonnes de carbone libérées dans l'atmosphère. Donc Total va devoir rendre à l'État 12 permis d'émission. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il lui en manque deux. Comment faire? Bien, on va organiser un marché. On va organiser un marché sur lequel vont se retrouver les entreprises, certaines qui, les plus vertueuses, elles qui auront fait des investissements, elles vont avoir des droits d'émission en trop. Si Total, par exemple, fait des investissements importants et se retrouve en fin d'année avec 9 tonnes émises, il lui reste un droit d'émission qu'il peut revendre sur le marché du droit d'émission. Et donc, on organise ainsi ce qu'on appelle le marché du carbone. Le premier marché du carbone, c'est le marché européen 2005. Bon, qui a beaucoup évolué depuis, sur lequel se retrouvent au départ les entreprises qui ont trop de droits d'émission par rapport aux entreprises qui n'avaient pas assez de droits d'émission. Ainsi, de cette confrontation de l'offre et de la demande, c'est toute la théorie du marché, émerge le prix du carbone. Et ce prix du carbone, c'est un prix qui doit normalement orienter, si vous voulez, modifier les comportements des producteurs et des consommateurs dans le sens d'une économie beaucoup moins émettrice de carbone. C'est ça qui a été mis en place à Copenhague. Le moyen, l'unique quasiment moyen mis en place à Copenhague, ça a été les mécanismes de flexibilité par le biais de la finance carbone. Et je vais la compléter. Donc là, on espère ainsi que si le prix de la tonne carbone augmente, si, excusez-moi, s'il n'y a pas assez d'entreprises qui font des efforts, il va y avoir besoin de beaucoup de droits d'émission. Et donc le prix de la tonne carbone va avoir tendance à augmenter sur le marché, je vous fais le raisonnement classique du marché, et donc ainsi ça va inciter les entrepreneurs à faire des investissements pour résoudre les problèmes d'émission. Donc c'est le marché qui est le meilleur pour réguler les droits d'émission, les émissions de CO2. C'est le marché qui est le meilleur pour réguler la crise climatique. On est en 97, en pleine euphorie financière. Il n'y a pas eu encore la crise asiatique de 97-98. Il n'y a pas eu non plus la crise de l'Internet 2000. Donc, pleine euphorie financière, euphorie de croissance aussi. C'est la nouvelle économie, la nouvelle frontière, l'économie Internet, le nouveau capitalisme, etc., etc. Aux États-Unis, une croissance très forte, y compris en Europe, une croissance qui se tient pas mal. Donc, à Kyoto, ça a été, on va résoudre la crise climatique essentiellement par les technologies vertes. Et on ne change rien. C'est ça qui change avec Copenhague aussi. Et qui, c'est vrai, je pense qu'on pose mieux les problèmes aujourd'hui qu'on ne les posait en 97. Les problèmes sont à peu près les mêmes aujourd'hui, se sont accrus, mais en 97, Je pense qu'aujourd'hui, on a derrière nous la crise financière. Mais enfin, beaucoup ont compris quand même ce que c'était que la crise financière, même si les gouvernements n'ont pas compris, ou n'ont pas voulu comprendre, ou ne peuvent pas comprendre. D'une part, et d'autre part, l'idée donnée par l'ONU d'ailleurs, qu'on ne pourra résoudre ces problèmes-là que véritablement en bifurquant par rapport à nos modes de production et de consommation, surtout dans les pays du Nord, c'est une idée qui s'est pas mal diffusée quand même.